Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Co, réalisé dans le cadre d'Octobre Rose, en ce mois de lutte contre le cancer du sein. Et aujourd'hui, nous sommes une nouvelle fois à Irslanden, clinique des Grangettes, en compagnie non pas de 1, ni de 2, mais bien de 3 médecins réunis aujourd'hui pour une raison bien particulière, vous l'imaginez. Et laissez-moi tout d'abord vous les présenter. Nous sommes en compagnie de la doctoresse Adler, radiologue. Doctoresse Adler, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également en compagnie de la doctoresse Monnier, sénologue, aujourd'hui avec nous. Doctoresse Monnier, bonjour.
Bonjour.
Et enfin, nous sommes également en compagnie du docteur Relecom, oncologue. Docteur Relecom, bonjour.
Bonjour.
Maintenant que nous avons fait les présentations, je vous propose que nous rentrions dans le vif du sujet. Dans un premier temps, j'aimerais vous demander pourquoi avez-vous tenu à être présents les trois pour ce podcast, et peut-être puis-je adresser cette question à la doctoresse Monnier.
Alors, je tiens d'abord à vous remercier de l'invitation. Alors, la prise en charge d'un cancer du sein, c'est pas uniquement un médecin avec sa patiente, mais en fait, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Ça veut donc dire qu'on a différents spécialistes, tels que les radiologues, les sénologues, les oncologues, les plasticiens, les radiothérapeutes, infirmières référentes, psychologues, pathologues, qui vont se réunir afin de proposer une prise en charge personnalisée à la patiente. Et c'est la raison pour laquelle il me semblait important aujourd'hui d'être plusieurs médecins de différentes spécialités dans ce podcast, parce que ça correspond à la réalité de notre prise en charge quotidienne dans notre centre du sein des patientes.
Merci, doctoresse Monnier. J'aimerais maintenant demander au docteur Relecom, quels sont les facteurs de risque du cancer du sein et comment peut-on les minimiser ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a de nombreux facteurs de risque aujourd'hui documentés pour le cancer du sein. On ne va peut-être pas être exhaustif ici, mais on va en citer les principaux. On peut distinguer les facteurs de risque qu'on dit modifiables, c'est-à-dire liés au mode de vie, des facteurs de risque qui sont non modifiables. Parmi ceux-ci, on peut citer l'âge. L'incidence du cancer du sein augmente avec l'âge. 3/4 des diagnostics de cancer du sein vont être portés chez des patientes de 50 ans et plus. On peut citer aussi une anamnèse familiale positive. On va s'intéresser principalement à la présence d'un cancer du sein dans un parent du premier degré, ce qui augmente le risque pour une personne de développer elle-même un cancer du sein. Une anamnèse familiale positive qui peut ou non être associée à une prédisposition génétique qu'on va être amené à rechercher dans le cadre d'une consultation oncogénétique si on est en fonction de l'âge au diagnostic ou du type de tumeur auquel on fait face et de l'anamnèse familiale. Il y a aussi d'autres facteurs de risque qu'on peut citer comme le fait de l'âge aux premières règles, l'âge à la ménopause, le fait d'avoir eu ou non des enfants, le fait d'avoir allaité ou non ses enfants, qui peuvent avoir une influence sur le risque de développer un cancer, principalement en lien avec l'imprégnation hormonale que ça peut influencer. On passe ensuite aux facteurs de risque dits modifiables, donc des choses liées encore une fois au mode de vie. On peut citer ici l'abus d'alcool, associé à une incidence plus élevée de cancer du sein, la consommation de tabac, peut-être dans une moindre mesure, mais qui aussi semble être un facteur de risque, la sédentarité, avec l'activité physique qui semble être un élément protecteur, et le surpoids, surtout après la ménopause, qui est également associé à une augmentation du risque de développer un cancer du sein. Il faut, si vous le permettez, encore peut-être mentionner le fait que à peu près 50% des cas de cancer du sein vont être diagnostiqués chez des patients chez qui on ne va pas forcément arriver à mettre en avant un facteur de risque évident. Il y a donc une part de hasard, ou en tout cas de facteur de risque qu'on n'a pas encore identifié, qui explique ces cas qui peuvent survenir chez des patients qui ont un mode de vie sain et qui n'ont pas de prédisposition particulière évidente pour développer un cancer du sein.
Réponse très complète qui saura ravir nos auditeurs, j'en suis certain. Je vous remercie et j'aimerais maintenant demander à la doctoresse Monnier quels sont les premiers signes du cancer du sein auxquels nous pouvons être attentifs.
Alors tout d'abord, il faut savoir que grâce à nos collègues radiologues et l'introduction du dépistage par la mammographie, une grande partie des cancers sont trouvés à un stade précoce et donc ne sont pas palpables, où il n'y a pas de signes physiques évidents hormis une anomalie à la mammographie. Alors, il faut s'inquiéter s'il y a l'apparition d'un écoulement spontané au niveau du mamelon, surtout s'il est de couleur brun foncé ou rouge, car ça peut être le signe de la présence de sang dans cet écoulement. Lorsqu'il y a un changement de forme du sein ou du mamelon, une rétraction de la peau, une rétraction du mamelon, ou bien une modification d'aspect de la peau au niveau du sein, un œdème comme une sorte de peau d'orange, une rougeur au niveau de la peau, ou ce qu'on appelle une ulcération, c'est-à-dire comme une petite lésion au niveau de la peau. On s'inquiète aussi si on palpe une induration, quelque chose qui est dur, ou l'apparition d'une masse au niveau du sein, ou bien au niveau axillaire, sous le bras, qui peut être le signe de l'apparition d'un ganglion. Et enfin, le cancer est rarement douloureux, mais une douleur inexpliquée du sein qui n'est pas en relation avec le cycle menstruel ou la prise d'hormones devrait motiver une consultation.
Merci pour ces éclaircissements. Maintenant que nous avons parlé des premiers signes qui doivent nous rendre attentifs, est-ce que vous pourriez nous parler des différentes étapes du diagnostic d'un cancer du sein?
Alors, il peut y avoir différents parcours, soit la patiente à une mammographie de dépistage ou fait une mammographie demandée par le médecin traitant ou le gynécologue et que cet examen revient anormal. À ce moment-là, le radiologue propose de faire une biopsie et puis, 3-4 jours après, le médecin traitant ou le gynécologue reçoit la patiente et lui annonce le diagnostic suite à la biopsie et puis ces patientes sont référées au centre du sein. La patiente est généralement vue par un sénologue ou un oncologue, et puis on présente cette patiente à un colloque multidisciplinaire afin de discuter de la prise en charge la plus appropriée, qui peut être une chirurgie, qui peut être un traitement systémique comme une chimiothérapie ou une hormonothérapie. Et souvent, après ce qu'on appelle le traitement primaire, c'est-à-dire le premier traitement qui peut être une chimiothérapie ou une chirurgie, on représente la patiente et on rediscute de la suite du traitement. Et tout au long, la patiente est suivie par l'équipe du centre qui a une haute expertise dans cette prise en charge des cancers du sein. La deuxième possibilité, c'est une patiente qui se palpe elle-même une masse au niveau du sein ou qui voit une anomalie au niveau de la peau et qui n'a pas de médecin traitant ou qui n'a pas de gynécologue. Elle peut contacter directement le centre du sein et là, elle sera vue par un spécialiste qui l'orientera, oui ou non, vers un examen radiologique et on retrouve le même suite, biopsie, éventuellement annonce d'un cancer et prise en charge.
Merci encore pour toutes ces réponses, Dr. Esmonier. On voit à quel point il est important de travailler en interprofessionnalité, comme vous l'avez souligné auparavant. Et à ce sujet, j'aimerais revenir sur la radiologie. Dr. Esadler, bien évidemment, je me tourne vers vous pour cela. Pour rappel, vous êtes radiologue. Pourriez-vous nous expliquer le rôle de l'imagerie médicale dans la détection précoce du cancer du sein ?
Alors, la majorité des cancers du sein se développent sur des mois, voire des années. Plus le cancer du sein est détecté à un stade précoce, moins il a de risque de s'être propagé au ganglion ou au reste du corps. Le rôle de l'imagerie, c'est de les détecter à un stade débutant, où ils ne sont pas palpables, où ils risquent d'être le moins agressifs possible, et finalement, d'entraîner des traitements qui seront moins lourds pour la patiente.
Ça me paraît beaucoup plus clair à présent. Et une autre question qui me vient est, existe-t-il différents types d'examens radiologiques et dans quel cas sont-ils utilisés?
L'examen radiologique standard est finalement la mammographie suivie de l'échographie selon la densité de votre sein. La densité du sein est un facteur important, ça dépend de la physiologie de la patiente. Le sein, il est fait de deux tissus, de glandes et de graisse. Plus vous avez de glandes dans votre sein, proportionnellement à la graisse, plus la densité de votre sein est élevée. On différencie 4 densités dans le sein, des seins graisseux transparents, des seins légèrement graisseux, des seins légèrement glandulaires et des seins très très glandulaires. Plus la densité du sein augmente, plus la mammographie seule ne devient pas diagnostique parce qu'on ne voit pas assez. Finalement, la mammographie, c'est une image blanche et noire. Plus le sein est dense, plus cette mammographie est blanche et on cherche du blanc sur blanc. Donc le contraste de l'image n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a besoin de rajouter un autre examen qui est l'échographie. Donc le bilan standard d'une femme se fait à l'aide d'une mammographie et très souvent à l'aide d'une échographie parce que la majorité des femmes ont un sein de type mixte, un peu glandulaire, un peu graisseux. À partir de là, si on trouve une anomalie, on devra la caractériser. La manière de la caractériser, c'est de faire une biopsie. Une biopsie, c'est de faire un prélèvement tissulaire à l'aide d'une aiguille, après avoir fait une anesthésie locale, de l'envoyer chez les pathologues, qui sont les médecins qui regardent au microscope le tissu et qui caractérise la lésion qu'on a trouvée. Donc, on fait une mammographie, une échographie. En cas d'anomalie, on fait une biopsie. La biopsie, on peut la faire soit sous échographie, si l'anomalie qu'on a trouvée est sous échographie, soit sous mammographie, si l'anomalie qu'on a trouvée sont des foyers de microcalcification qu'on ne voit qu'à la mammographie. À partir de là, on arrive à caractériser les lésions. Tout ce qu'on trouve n'est pas forcément de la tumeur. La majorité des lésions qu'on trouve sont des lésions bénignes. Mais quand on n'arrive pas à catégoriser une lésion, on est obligé de la biopsier.
Merci beaucoup, Dr. Sadler. Nous reviendrons vers vous juste après. Avant cela, j'aimerais me tourner à nouveau vers le Dr. Rollecom, qui est oncologue, pour rappel, afin de nous permettre de comprendre quels sont les différents traitements du cancer du sein et comment sont-ils choisis.
Alors, il y a différentes modalités qu'on peut proposer à une patiente une fois qu'on a posé un diagnostic de cancer du sein. Ces modalités peuvent être d'une part la chirurgie. On a la chance dans ce centre du sein d'avoir des chirurgiens qui ont une expertise dans la chirurgie du sein oncologique, ce qui est un atout important pour le traitement de ces maladies. La chirurgie qui est finalement la pierre angulaire du traitement d'un cancer du sein localisé qu'on va opérer à but curatif. On peut proposer de la radiothérapie, souvent en complément d'une chirurgie, pour assurer le contrôle local dans un traitement d'une maladie localisée, encore une fois, à but curatif. Radiothérapie qui peut aussi parfois être proposée à des patientes pour des maladies plus étendues, pour soulager certains symptômes, par exemple. Et aussi proposer à des patients des traitements systémiques qui sont du ressort de l'oncologue médical, donc des traitements qui sont administrés et qui exercent leur effet dans tout le corps, qui peuvent être sous forme d'hormonothérapie, pour les maladies qui sont dites hormonosensibles, qui expriment les récepteurs hormonaux, qu'on peut aujourd'hui coupler ou non à d'autres types de molécules qui peuvent potentialiser leurs effets. On peut leur proposer de la chimiothérapie dans le cadre d'une maladie localisée à plus haut risque, pour en complément d'une chirurgie et ou d'une radiothérapie pour diminuer le risque de rechute, ou aussi dans le cadre de maladies plus étendues pour essayer de contrôler l'évolution de la maladie. Et il y a d'autres types de traitements encore systémiques comme l'immunothérapie ou les thérapies ciblées pour certains sous-types de cancer du sein, notamment le cancer du sein HER2, qui peuvent être envisagés. Alors, comment est-ce qu'on détermine le traitement approprié pour une patiente? On va discuter de ça, comme a dit la doctoresse Monnier, dans le cadre d'une discussion multidisciplinaire. C'est pas une personne dans son coin qui choisit un traitement, mais c'est une équipe qui se réunit à l'occasion d'un tumor board où on va discuter de chaque cas et on va déterminer pour cette patiente le traitement le plus adapté. On va déterminer ce traitement sur la base de plusieurs éléments. D'une part, l'étendue de la maladie au moment du diagnostic. Est-ce que c'est une maladie localisée? Est-ce que c'est une maladie qui s'est étendue dans les ganglions avoisinants? Ou est-ce que c'est une maladie qui est malheureusement plus étendue et qui s'est propagée à distance sous forme de métastase? On va aussi intégrer les caractéristiques de la maladie. On a parlé de la biopsie. On va pouvoir poser un diagnostic sur la base de cette biopsie, mais aussi déterminer les caractéristiques du cancer en analysant certaines caractéristiques des cellules tumorales qui vont permettre de classer la tumeur en certains sous-types. Le sous-type de cancer peut avoir une influence importante sur les décisions de traitement. Et puis on va aussi intégrer bien sûr les caractéristiques de la patiente, son âge, ses autres problèmes de santé, parfois aussi ses souhaits, pour pouvoir définir ensemble de manière multidisciplinaire un projet thérapeutique qui tient compte de tout ça et permettre à proposer un traitement adapté, personnalisé et coordonné à ces patients pour avoir le meilleur résultat possible.
Bien, nous approchons de la fin de cet épisode, mais avant cela, comme promis, je reviens vers la doctoresse Adler pour une question des plus importantes. Pourriez-vous nous expliquer comment suivre les patientes que nous pourrions décrire comme étant à risque?
Alors, 85% des femmes ne sont pas considérées avoir un haut risque de cancer du sein. La majorité des femmes sont à faible risque de développer un cancer du sein. On a environ 12% des femmes qui ont ce qu'on appelle un risque modéré de développer un cancer du sein, qui dépendent de facteurs, comme a dit le docteur Rollecom, modifiables ou non modifiables, soit leur mode de vie, soit leur histoire familiale. Et il y a environ 3% de la population qui a un risque élevé de développer un cancer du sein en raison de la présence de mutations génétiques. Et donc, chez ces femmes-là, qui ont des histoires familiales chargées, avec soit une mère, une sœur, une fille qui ont développé des cancers du sein à des âges jeunes ou des cancers ovariens, on a tout un protocole de suivi qui se fait et qui est réalisé de manière très très stricte à partir de l'âge de 30 ans avec des mammographies, échographies et IRM annuelles pour leur donner la possibilité de la détection la plus précoce. Étant donné qu'elles ont à haut risque de développer un cancer du sein dans leur vie, on les suit de manière très très régulière. L'IRM mammaire est le meilleur examen qui existe aujourd'hui pour détecter le cancer du sein. Ça reste un examen cher et qu'on réserve à cette population-là pour leur donner les meilleures chances de diagnostic précoce et de guérison.
Pour terminer, je pense qu'il serait bon de laisser un message clé à la fin de cet épisode. Ainsi, j'aimerais vous demander, Dr Essa Adler, quelle est l'importance d'une mammographie régulière dans la détection précoce du cancer du sein ?
On l'a dit tout à l'heure, hein, plus le cancer est petit, moins il a de risque de s'être propagé en dehors du sein et plus les chances de guérison sont élevées. Réaliser une mammographie régulière va permettre de détecter, dans la majorité des cas, des cancers de petite taille, qui seront moins agressifs et qui vont entraîner des traitements moins invasifs. Des études scientifiques ont démontré que la régularité dans le dépistage mammographique peut diminuer de plus de 50% le risque de mortalité lié au cancer du sein par rapport à une femme qui ne ferait pas des mammographies de manière régulière. Donc, pour l'instant, c'est le seul examen qui permettrait de lui sauver la vie en faisant une détection précoce. C'est la mammographie de dépistage.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Ce podcast vous a été proposé par la Ligue Genevoise contre le cancer et Irslandem Clinique des Grangettes, en compagnie de la doctoresse Monnier, du docteur Redecom et de la doctoresse Adler. Un grand merci à ces trois professionnels pour toutes leurs interventions et leurs réponses plus qu'éclairantes autour de cet important sujet qu'est le cancer du sein. N'hésitez pas à nous laisser un avis au sujet de cet épisode et à consulter tous les liens qui se trouvent en description. En attendant de revenir une nouvelle fois à vos oreilles, nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, j'espère.